Je voudrais cet après-midi, aujourd'hui seulement, lire de l'Épître aux Colossiens, ce qui a déjà été lu ce matin. Et alors le frère Rousse est rentré et a dit subitement, « Mais tu continues cet après-midi le sujet de ce matin. » Alors j'ai pensé en moi-même, donc avec Colossiens 1, du verset 9. Il m'a dit non, avec le sujet de ce matin. Donc je suis reconnaissant pour de tels frères qui aiment la parole du Seigneur. Et nous qui sommes d'un seul esprit, du même esprit, parfois nous ne savons même pas assez estimer cela. Combien de fois, souvent, ça n'existe même plus aujourd'hui. Où est-ce qu'on trouve encore cela d'être du même esprit? Et c'est peut-être la raison que nous voulons remercier Dieu pour cela. Alors si cela doit être, alors laissez-moi lire plusieurs écritures. Et je le fais, n'est-ce pas, en regard à ce que nous devons prendre à cœur, l'essentiel, c'est-à-dire ce qui compte, c'est-à-dire notre préparation. Notre préparation, c'est ce qui compte, et pas du savoir, et de savoir combien de venues du Seigneur existent, et pour quel objectif, et dans quel contexte, quand et où. Mais si nous savions tout cela, et que nous n'avions pas nous-mêmes la certitude, l'assurance d'être prêts quand le Seigneur reviendra, alors qu'est-ce que nous servirait tout ce savoir? Mais ici, la prédication doit être dirigée vers ce but, comme Paul pouvait le dire, qu'au jour de Jésus-Christ, nous puissions subsister et apparaître devant le Seigneur avec joie. Que nous puissions parfois aussi semer avec larmes, mais avec joie. Nous voulons, en ce jour-là, récolter. Les versets, nous sommes connus, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 11, où, partout où il est parlé que le Seigneur, de ce que le Seigneur reviendra. Mais je voudrais vous lire de l'Apocalypse plusieurs écritures. Je l'ai déjà dit une fois ici, peut-être même que je l'ai déjà fait ici. Jusqu'à Apocalypse 22, c'est le dernier chapitre. Il les parlait des venues du Seigneur. Quoique déjà au chapitre 19 d'Apocalypse, le festin des noces est décrit. Ensuite, donc du verset 1 au 10, et ensuite du verset 11 jusqu'à la fin du chapitre, la bataille d'Amargedon, la dernière bataille. Et dans Apocalypse 20, Satan est lié et est jeté dans l'abîme. Ensuite commence le millénium, du verset 1 jusqu'au verset 6, et ensuite à partir du verset 7. Après le millénium, il est la guerre de Gog et Magog, et ensuite suit la guerre, oui, et ensuite ils investissent le camp des saints et la sainte ville, la ville bien-aimée. Ensuite au verset 11, le jugement dernier est décrit avec dans Apocalypse 20, et ensuite il est décrit ici, à la fin au verset 14, c'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Et ensuite, au chapitre 21, verset 1, il est écrit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer aussi n'existait plus. » Nous pourrions continuer à lire. Au verset 2, il est écrit, « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, une nouvelle Jérusalem, une Jérusalem nouvelle, vêtue comme une épouse parée pour son époux. Puis j'entendis du ciel une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple. Oui, Dieu lui-même sera au milieu d'eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus, etc. etc. » Ensuite, nous lisons au chapitre 22, quelles sont les choses qui arriveront avant qu'il y ait des nouveaux cieux et une nouvelle terre? Et c'est si difficile pour des gens qui n'ont pas la clé, l'accès à ces paroles prophétiques, de classer les choses dans l'ordre biblique et de savoir où est-ce qu'elles ont leur place et dans quel contexte. Ici, nous avons, dans Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 1, Il est parlé d'un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et sur les deux rives du fleuve, il y avait des arbres de vie, etc. Ensuite, au verset 5, portant 12 fois du fruit. Ensuite, au verset 5, là non plus, il n'y aura plus de nuit et l'on n'aura pas besoin de la lumière d'une lampe ni de la lumière du soleil, car l'Éternel Dieu les éclairera et ils régneront comme roi dans toute l'éternité. Tout à l'heure, si vous l'aviez remarqué, dans Apocalypse 20, il n'a pas écrit comme ici, dans toute éternité, mais 1000 ans. 1000 ans, ils régneront 1000 ans. Ouais, avez-vous remarqué, je vais vous le lire. Apocalypse chapitre 20, verset 5. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans eussent été accomplis. C'est là la première résurrection. Maintenant, à partir du verset 6. Béni et saint, celui qui a part à la première résurrection. Sur cela, la seconde mort n'a pas de pouvoir, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Mais ici, d'Apocalypse 22, verset 5, il n'est plus dit 1000 ans, mais ici, il est dit, ils régneront comme roi dans toute éternité. Apocalypse 22, verset 5. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit pour nous aujourd'hui dans l'enseignement, mais il s'agit pour nous du sujet de la venue du Seigneur. Le mot venu du Seigneur. Les venues du Seigneur. Apocalypse 22, verset 7. Il s'agit du sujet les venues du Seigneur. Et sachez ceci, je viens bientôt. Béni celui qui tient fermement les paroles de la prophétie de ce livre. Oui, combien de fois est-il montré dans différentes venues, entre-temps? Apocalypse 10, Apocalypse 14, avec les 144 000 sur la montagne de Sion. Combien de fois il est montré dans différentes venues ici, juste avant le chapitre 22. Je vais vous lire dans Apocalypse 16, par exemple. Au verset 15, il est écrit, Apocalypse 16, verset 15, « Voici que je viens comme un voleur. Béni soit celui qui veille et qui tient ses vêtements prêts, de peur qu'il n'aille pas nu, tout nu, et qu'on ne voit sa honte. » Et ceux qui continuent à lire, ils remarquent tout de suite au prochain verset le mot en hébreu « Armageddon » est écrit. Donc, nous comprenons de quelle venue il s'agit ici. Nous comprenons tout de suite les différentes venues dans les différents contextes et pourtant le même mot « venue du Seigneur ». Si nous prenons l'Église, alors il y a 3 venues principales en ce qui concerne l'Église en relation avec l'Église. Le frère Branham, dans une prédication très particulièrement, l'a souligné. Il disait, le Seigneur, premièrement, est venu pour sauver son Église. Il vient pour la deuxième fois pour prendre à la maison son Église rachetée au festin des noces. Il vient pour la troisième fois avec l'Église rachetée après le festin des noces pour ici sur terre régner 1000 ans. Ce sont 3 venues dans la chose qui ont pour chose principale l'Église du Nouveau Testament, qui concerne l'Église du Nouveau Testament. Mais quand nous lisons entre-temps ce qui arrivera encore et qui sera encore, comme venu, nous verrons comment est-ce que c'est nécessaire de que ce ne soit pas seulement des choses qui soient dites, mais que aussi ce qui est dit soit ordonné et classé bibliquement. Ça, nous n'allons pas le faire aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, sinon ça pourrait être que quelqu'un pense que si je commence aujourd'hui, nous serons encore ce soir ici, nous serions même demain matin ici, si nous voulions vraiment dans les détails exposer cela. Mais regardez, avec moi, seulement un peu dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 24, Matthieu chapitre 24, ici il est écrit, à partir de verset 1, Jésus quitta alors le temple et s'apprêtait à partir. Lorsque ses disciples s'approchèrent de lui pour attirer son attention sur la splendeur du temple. Mais il leur répondit, « Oui, maintenant vous voyez tout cela. En vérité, je vous le dis, oui, maintenant vous voyez tout cela encore. En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici une pierre sur une autre qui ne soit pas renversée. Ici, il s'agit d'une seule et chose unique du temple. » Maintenant, verset 3. Alors, comme il s'était assis sur le mont des Oliviers, les disciples restés seuls s'approchèrent de lui avec cette question. Dis-nous, quand ces choses arriveront-elles? C'était la question 1. La première question, c'est-à-dire en ce qui concerne le temple, que aucune pierre ne restera l'une sur l'autre. Première question ensuite. Et quel est le signe de ta venue? Et quel, ensuite, deuxième, troisième question, et de la fin du monde. Trois questions. Et ces trois questions ont été aussi répondues. Nous savons le temple a été détruit 70 après Christ, et maintenant il s'agit certainement de la question, ou bien le 70 après 10. Maintenant la question suivante est là, et quel sera le signe de ta venue? Donc il s'agit de la venue et du signe qui précède, le signe qui précède la venue. Donc quel sera le signe ou bien la, ce qui fera remarquer le temps du retour de Jésus-Christ? C'est la grande question dont il s'agit ici. Et quel est le signe de ta venue, donc? Le signe qui précédera ta venue. Et voilà l'avertissement que le Seigneur a donné ici. Il a dit d'abord qu'il y aura des guerres et des cris de guerre. Je vous le lis, Matthieu 24, verset 7. Car une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura aussi des famines et des tremblements de terre, ça et là. Tout cela, verset 8, ne sera que le commencement des douleurs. Et je l'ai dit dans plusieurs exposés. Ici, la fin des temps est introduite avec des guerres et des cris de guerre, des tremblements de terre, des famines, des temps de disette, des temps chers. Ce sont les douleurs qui viennent sur la terre. Le mot douleur ici est écrit. Quand est-ce que des douleurs viennent? Quand il y a quelque chose qui doit naître, alors que les douleurs commencent. Et ici, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ici, il est parlé aussi de douleurs. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Les douleurs de l'enfantement commencent. Les douleurs commencent. Mais ça, ce n'est pas la fin, ce n'est que le commencement. Comme nous pouvons être reconnaissants de ce que Paul, comme un prophète, avec vue divine, lointaine, il a vu par le Saint-Esprit, il a regardé jusqu'à la fin de la fin des temps. Il a pu regarder jusqu'à la fin de la fin des temps. Pas seulement au commencement, mais vraiment à sa fin. Christ, notre Seigneur, a décrit le commencement de la fin de la fin des temps, mais alors le commencement de la fin, en disant que des nations se lèveront contre des nations, des guerres, il y aura des guerres, des cris de guerre, des famines, des tremblements de terre, ça et là. Et des famines et des temps de disette. Mais il s'agit de la question, quel sera le signe de ta venue ou bien de ton retour? J'aime comme Paul le formule. Plus exact, ça n'aurait pas pu être exprimé plus exact que ça. Cela est connu de nous tous dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Ici, il est écrit, au premier verset, « Mais pour ce qui est du temps et de l'heure, vous n'avez pas besoin, frères, d'instructions écrites à leur sujet. » 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1. Maintenant, le verset 2, « Vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. » Quand ils disent, « Maintenant, il y a la paix et la sécurité. » La sécurité. Alors, tout à coup, la destruction les surprend comme les douleurs. Entendez-vous cette parole ici de nouveau? Comme les douleurs de l'accouchement chez une femme enceinte et ils n'échapperont certainement pas. Notre Seigneur a dit, c'est le commencement des douleurs. Et Paul ne crie plus concernant des guerres et des cris de guerre et de toutes ces choses qui seront et qui étaient déjà, qui ont déjà existé. Mais il a dit, quand ils diront maintenant paix et sûreté, alors tout à coup la destruction les surprend, comme les surprendra comme les douleurs de l'accouchement chez une femme enceinte, et ils n'échapperont certainement pas. Dites-moi, êtes-vous vraiment reconnaissant pour ça, de ce que Dieu aussi nous a montré ce contexte? De cris, de guerre, tous peuvent en parler. Mais écoutez ce qui est écrit au verset 4. Dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 4 maintenant. Mais vous, frères, ne vivez pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Car vous êtes tous des fils et de lumière et des fils de jour. Nous n'avons rien à faire avec la nuit ni avec les ténèbres. Pourquoi est-ce que nous sommes pas dans les ténèbres? Notre Seigneur a dit, celui qui me suit ne restera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. C'est peut-être la raison que nous ne sommes pas dans les ténèbres, parce que nous le suivons. Et Paul, Pierre pouvait dire, et nous tenons de plus certaine la parole prophétique qui lui, comme une lumière éclatante dans un lieu obscur. Qu'est-ce que c'était? Dieu nous a accordé la parole prophétique comme une lumière, nous a éclairci, nous a, et elle lui dans les ténèbres. Mais les ténèbres n'ont pas compris jusqu'à aujourd'hui encore. Et ils ne comprendront pas. Mais celui qui vient au Seigneur et qui le suit, pas seulement dit je crois en lui, mais qui suit le Seigneur sur le chemin avec lui, avec sur son chemin jusqu'à la fin, de clarté en clarté. Suivre veut dire aller tant qu'il marche avec lui, le suivre. Combien se sont arrêtés, et partout se sont arrêtés, et ils pensent suivre le Seigneur. Et là je pense à cet homme du temps d'Élie, alors que ses amis lui disaient reste ici, il n'a pas écouté. Cela ne le concernait même pas. Lui, il voulait aller jusqu'à la fin, suivre. Quand ils lui ont dit, mais reste ici à Bethel, ou bien reste ici. Cela, il n'en était pas question pour lui. Il dit, aussi vrai que Dieu vit, je ne reste pas ici. Je ne m'arrête pas en chemin. Même un prophète lui a dit, reste ici. Il a dit au prophète, je ne reste pas ici. Je viens avec toi. Qu'est-ce qui était dans son cœur? Il n'a pas seulement reçu un manteau sur lui, reçu. Ce n'était pas seulement un manteau extérieur qu'il portait, c'était la révélation de Dieu dans son cœur. Il était saisi intérieurement et il ne pouvait pas s'arrêter, se reposer. Il devait suivre avec Dieu, suivre, marcher avec Dieu, suivre l'homme, suivre ce que Dieu faisait dans son temps. Et c'est ce que cela nous concerne encore aujourd'hui. Nous devons suivre ce que Dieu fait dans notre temps. Même si les gens nous disent, restez ici, vous n'avez pas besoin. Non, ce n'est pas possible. Si le Seigneur se lève, alors nous nous levons avec lui. Mais ça, je vais vous le dire. Tous les autres disciples de prophètes sont restés partout où ils étaient. On aurait pu leur demander, venez avec nous. Venez. Non, ils seraient restés là où ils étaient. Là, ils avaient aussi la révélation. Ils savaient, ils disaient, mais tu sais, ne sais-tu pas que ton maître, que le Seigneur prendra ton maître aujourd'hui, enlèvera ton maître? Il a dit, mais taisez-vous, je le sais. Mais eux, ils sont restés malgré ce qu'ils savaient. Ils sont restés là. Mais lui, il n'est pas resté où ils sont restés. Non, lui, non. Lui, il a continué à marcher. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Il a continué à marcher. C'est comme ça avec nous aujourd'hui encore. Les gens veulent rester. Les gens veulent qu'on reste ici et là. Non. Nous prenons part à ce que Dieu fait aujourd'hui quand nous ne sommes pas déterminés à rester quelque part d'autre. Nous suivons le Seigneur, suivons ce qu'il fait dans notre temps jusqu'à la fin. Il y en a aujourd'hui encore qui savent qu'il y aura un enlèvement. Ils disent, oh oui, ici c'est ainsi. Oui, non. Nous continuons à marcher. À suivre ce que le Seigneur fait, à marcher avec lui parce que nous avons été saisis de lui. Maintenant, revenons ici à Matthieu 24. Et très rapidement aussi dans Matthieu 25. Matthieu 24 et Matthieu 25, nous lisons plusieurs fois concernant la venue du Seigneur. Et à chaque fois, dans un autre contexte, je veux seulement rapidement, au chapitre 24, au verset 27, Matthieu 24, verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, il en sera de même au retour du Fils de l'homme. Comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, il en sera de même au retour du Fils de l'homme. Et plus tard, et aussitôt au verset 29, mais aussitôt après cette tribulation, le soleil s'obscurcira et la lune perdra sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées après cette tribulation. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Deux venues complètement différentes. L'une a lieu comme l'éclair pour prendre les siens dans la gloire, dans l'enlèvement. Mais ensuite, le soleil perd son éclat, le soleil s'obscurcit et la lune perdra sa lumière. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est déjà le sixième sceau. Le sixième sceau, déjà le commencement du jour de l'Éternel, où les puissance des cieux seront ébranlées, etc., etc. Et alors, quand le signe du Fils de l'homme apparaîtra au ciel, alors toutes les tribus de la terre se lamenteront, mais terriblement, quand le Seigneur revient comme époux pour prendre les siens auprès de lui dans la gloire, dans l'enlèvement, les gens vont se réjouir de ce que nous soyons partis, n'est-ce pas? Personne ne va se lamenter. Peut-être certains se plairont à cause de nous, j'espère au moins, que nous leur étions si précieux. Mais il n'y aura pas de lamentation sur terre. Quand est-ce que cela existera? Quand est-ce qu'il y aura une lamentation sur terre? Je vais vous le lire dans Apocalypse chapitre 1, verset 8, il est écrit. C'est un verset parallèle au prophète Zacharie. Apocalypse chapitre 1, verset 7 et 8. Voici qu'il vient avec des nuées. Et les yeux de tous le verront, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Ça, ce n'est pas sa venue pour l'enlèvement. Ça, nous le savons tous. On n'a pas besoin d'enseignement particulier pour comprendre cela. Ça, c'est tout à fait une autre venue quand il vient. Là, ici, il vient comme c'est écrit ici. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Alors là, tous les genoux trembleront, se fléchiront et toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Ça, ce sera aussi un jour dans lequel je me réjouirai particulièrement. Quand le monde entier reconnaîtra notre Sauveur, notre Rédempteur qu'ils ont si méprisé. Et les gens l'ont lu, c'était dans les journaux, j'ai fait que l'entendre, je n'ai pas lu. Comment est-ce que la naissance par une vierge de notre Seigneur a été blasphémée et ils veulent l'ôter son engendrement divin et veulent prétendre qu'il serait né comme tous les autres hommes. Non, cela est douloureux, c'est très douloureux. Qu'il aurait été engendré comme tous les autres hommes, engendré. Mais quand ce jour arrivera, et il recevra l'honneur qui lui est dû. Alors tous, nous crierons de joie et de louange. Nous nous réjouirons. Lui qui était méprisé des hommes, n'est-ce pas? Poussé à droite et à gauche, craché dessus. Ceux qui construisent, n'est-ce pas? Les religieux qui construisent, n'est-ce pas? Le poussent partout et ils n'ont pas de place pour lui, n'est-ce pas? Pour la pierre angulaire. Et Marie, même à l'époque, ils n'avaient pas de place pour le Seigneur. Même à l'époque, quand Marie le tenait dans ses bras. Mais le jour arrive où ils le placeront à sa place, là où il a sa place d'être. Et c'est le jour dont nous venons de lire ici, dans l'Apocalypse. Quand il viendra pour prendre la bien-aimée épouse, là il vient comme époux. Et nous allons le rencontrer dans les airs. Et nous serons avec lui. Nous serons enlevés avec lui, nous monterons avec lui dans les demeures au ciel, dans la maison du Père, comme nous l'avons observé ce matin, et nous serons auprès du Seigneur pour toujours. Mais quand il vient pour régler le compte, pour rétribuer, alors il vient comme il est écrit ici, dans Matthieu 24, verset 30. alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Vous pouvez tous le lire. Zacharie chapitre 12, verset 10. Ils regarderont à moi qu'ils ont percé et se lamenteront. Comment se lamente d'un fils unique, d'un seul fils sur lequel on se lamente? Ça, c'est toute une autre venue. Matthieu 25, à partir du verset 1, aussi connu de nous tous. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui partent, lampe à la main, pour rejoindre l'époux. Nous connaissons tous aussi cette parole. Et ensuite, il est dit ici, celles qui furent prêtes entrèrent avec lui au festin des noces, au festin. Et la porte fut fermée. Donc ici, il s'agit du festin des noces. Quand il s'agit du festin des noces, alors il s'agit d'époux et de l'épouse et de l'époux. Même si ici le mot vierge est utilisé, alors ça veut dire qu'elles n'ont pas été touchées. Elles n'ont pas été touchées. Elles sont saintes, saintes, saintes au Seigneur, pour le Seigneur. Et une telle église, c'est une telle église qu'il aura à la fin. Touchée d'aucun homme, comme Marie pouvait dire, je ne connais aucun homme. C'est ainsi que l'épouse, église pourra dire, je ne connais aucun homme. Je ne connais qu'un seul. Et c'est celui qui m'a couvert de son ombre, alléluia, de son Saint-Esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons entendu la parole de l'heure, la parole des promesses divines pour notre temps. Les semaines dernières, à Londres, j'ai écouté un homme qui toujours de nouveau disait de lui, je suis le prophète de Dieu, le prophète de Dieu de cette heure, etc. Il utilisait des expressions comme ça. Ça trouvait bien à lui et mon cœur était dans la douleur d'entendre tout cela. Un homme de Dieu de l'heure doit avoir la parole de l'heure divine, sinon c'est aucun homme, sinon il n'est pas un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu. Où est un homme de Dieu? Les hommes de Dieu étaient des hommes par qui Dieu pouvait parler et pouvait les utiliser. Tous ceux qui se sont prétendus être hommes de Dieu ne savent même pas qui est Dieu. Ils ne le savent pas. Ensuite, il a exigé que les auditeurs puissent remercier les trois. D'abord le Père, ensuite le Fils et après le Saint-Esprit. Et ça, c'est l'homme de Dieu de l'heure. Non, pas ainsi. Non, pas ainsi. Notre Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il reste le même éternellement. Il peut se révéler comme il veut. Mais il reste éternel et toujours le même. Il n'y a pas quelqu'un en dehors de lui, d'autre, qui serait Dieu et éternel. Quand on pense à Frère Branham, qui a apporté toute l'opprobre de Christ, et tous les autres se laissent fêter, et glorifier, et honorer. Mais un jour, le grand changement viendra. Un jour, le grand changement viendra. Ceux qui ont porté l'opprobre régneront avec le Seigneur. Et ceux qui se sont fêtés ici et honorés se lamenteront. Ils se lamenteront. Ils graisseront des dents. Et diront, mais pourquoi n'avons-nous pas? Pourquoi n'avons-nous pas vu? Pourquoi n'avons-nous pas? N'est-ce pas? Belle question. Chacun reçoit l'occasion ici. Matthieu, je lis le verset 10. Matthieu 25, verset 10. Comme elles allèrent acheter de l'huile, l'époux arriva et les vierges qui s'étaient préparées entrèrent avec lui au festin des noces. Amen. Matthieu 25, verset 10. Amen. Ça, c'est sa venue pour le festin des noces. Vous voyez? Combien de différentes venues il existe? Je vous lis encore une autre venue. C'est toujours un peu grave que je lis souvent les différentes Bibles. Je ne sais plus si le verset est à droite ou à gauche, mais je sais toujours où c'est écrit, ne vous inquiétez pas. Matthieu 25, verset 31 et 32. Matthieu 25, verset 31. Mais quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront alors rassemblées devant lui. De nouveau, une autre venue. C'est pas ça, une venue ici, comme l'époux. Là, il vient pour s'asseoir sur le trône de sa gloire. Et tous les anges avec lui. alors il s'assiera et alors il jugera entre les nations et les peuples. Vous voyez, nous pourrions continuer avec les différentes venues du Seigneur qui, dans les Saintes Écritures, nous sont décrites. Tout en son temps, dans le contexte juste. Frère Branham disait, pendant que l'épouse fête le festin des noces, le Seigneur descendra et se révélera à ses frères, les 144 000, pendant que l'épouse reste au ciel et fête le festin. Vous voyez, il y a plusieurs choses dans la parole de Dieu. Nous allons écrire là-dessus. Heureux l'homme qui trouve sa place dans l'église du Dieu vivant, qui est inséré dans le corps du Seigneur, des hommes qui se soumettent à Dieu, qui peuvent se soumettre à Dieu et à sa parole. À la fin, l'ordre divin existera et sera rétabli. Ça ne veut pas dire que tu dois te soumettre à moi et moi à toi. Non, ça veut dire que nous tous, nous devons nous soumettre à Dieu, nous soumettre à sa parole, avec toute la crainte et le respect devant Dieu, pour qu'il puisse, avec nous et avec ce qu'il veut achever, atteindre le but et recevoir ce qui lui revient de plein droit. Nous croyons qu'il réussira à le faire. Il est Dieu. C'est lui qui décide de tout qui, et rien ne peut lui résister. Il dit, mon conseil s'exécutera, s'accomplira. Ce que je me suis proposé de faire, je l'exécute. C'est ainsi qu'il a dit par le prophète Esaïe. Il a laissé dire par le prophète Esaïe. Et c'est ainsi que ce sera aussi. Apocalypse chapitre 10, nous l'avons lu. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13, nous connaissons aussi tous. 1 Corinthiens 15, nous connaissons aussi toutes ces liaisons avec la venue du Seigneur pour prendre les siens auprès de lui dans la gloire, dans l'enlèvement. Comme aujourd'hui, nous l'avons déjà mentionné dans 1 Corinthiens 15. Ici, il est écrit ensuite au verset 43. Il est semé dans le déshonneur, il est ressuscité dans la gloire. Il est semé dans la faiblesse, il est ressuscité dans la force. Semé est un corps naturel, ressuscité est un corps spirituel. De même qu'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Vous pouvez tous continuer à lire, nous l'avons souvent traité maintenant le verset 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Alors ce n'est plus un enseignement, c'est une réalité. Alors ça sera accompli. Ce sera accompli, ce ne sera pas un enseignement. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 54, mais quand ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort est engloutie dans la victoire. Alors personne n'aura besoin d'être en celui, ça je vous le dis. Alors on n'ira plus au cimetière. Alors ceux qui étaient au cimetière. Amen. Oui, merci. Ils ne vont pas être ensevelis, mais ils sortiront. Car c'est ainsi que c'est écrit ici. Alors ça accomplira la parole qui est écrite. Le verset 40 et 54 à la fin. Il y a eu un homme. Son nom, on ne le nomme pas, mais il écrivait après le départ à la maison de frère Branham. C'était un homme très aimé dans le Seigneur, qui connaissait bien la Bible, etc. Quand il a écrit plusieurs articles sur frère Branham, plein d'amour et plein de respect. Et subitement, il écrit un article que quelque chose lui aurait été révélé que les apôtres et les prophètes ne savaient pas et que même frère Branham, cela est resté caché pour lui. C'est-à-dire que maintenant, le temps est arrivé dans lequel les croyants n'ont plus besoin de mourir et qu'il n'a plus besoin de tenir un ensevelissement, un enterrement. Et quand le temps était arrivé, ça a duré pendant plusieurs années seulement, quelques années, et cet homme lui-même a été enseveli, enterré. Alors cet homme lui-même a été enterré. Hein? Il avait une révélation, n'est-ce pas, que tous les prophètes n'avaient pas eu, que tous les prophètes et que les apôtres n'avaient pas eu, que frère Branham lui-même n'avait pas eu. Et ensuite, lui-même, avec cette révélation qu'il avait eue, il a été enterré. Non, ce dont nous avons besoin, c'est la clarté divine en toutes choses. Tout en son temps, pas remplir la bouche, plus que cela, ça appartient de le faire, mais de laisser les choses dans le contexte dans lequel elles ont leur place. J'aime cela. Quand il est écrit ici, quand cela aura lieu, alors ça accomplira la parole qui est écrite. Cela touche mon cœur, j'aime cela. La fin du verset 54. Vous voyez, Dieu veille sur sa parole pour que aucune écriture soit annulée. Toute écriture doit s'accomplir de la tête, de A à Z. Chaque parole de Dieu s'accomplira, aura lieu tel que la sainte bouche de l'Éternel l'a prononcée. Il y en a qui pourront dire, oui, mais comment est-ce que les morts vont pouvoir ressusciter? Dans quel corps ils auront? N'est-ce pas? Alors là, le bien-aimé Paul a utilisé le mot « vous insensé ». Hein? Pourquoi insensé? Oui, ça devait être comme ça. C'est insensé. Vous pouvez le lire. Il a dit qu'ils sont insensés de se poser de telles questions. On n'a pas besoin de se poser de telles questions. Dieu prononce une parole et cela s'accomplit. On n'a pas besoin de se demander. S'il a dit, vous tous qui m'appartenez, sortez, alors ils seront tous là. Il manquera personne. Il manquera personne. Et si quelqu'un dit, oui, mais et les lions et tout ça, mais c'est pas la question. La parole prononcée du Seigneur, n'est-ce pas, va trouver tous les éléments, n'est-ce pas, et toutes les femmes et les hommes, tous seront rassemblés là, ressuscités entiers. Et rien ne manquera, personne ne manquera. Et ça, cela s'accomplira. La mort est engloutie. Maintenant, la mort est encore parmi les hommes, n'est-ce pas? La fin du verset 54. Je voudrais vous dire à vous qui êtes âgés et qui ressentez encore que nous vieillissons, je voulais vous dire quelque chose pour vous encourager et consoler. Je souris un peu. Mais dans ce qui concerne ce point, il y a deux sortes de croyants. Les uns s'en sortent avec leur destin et les autres non. Il y en a un, il s'est plaint toute sa vie de sa vieillesse, alors qu'il n'allait pas si mal que ça. Mais c'était son habitude de se plaindre, nuit et jour, matin, toute la journée. Quand on lui demande comment vas-tu, etc., bon, un peu. Il se plaignait toujours, il n'était jamais satisfait. Mais c'était, il allait très bien, mais il devrait être reconnaissant à Dieu, mais il avait l'habitude de se plaindre. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a des croyants qui se plaignent quand corporellement ils vont mal. Corporellement. Ils se plaignent, ils sont... Il y a une pensée précieuse qui m'est venue ces derniers temps. Nous croyons au changement de notre corps. Et je voudrais à tous, vous qui ressentez la vieillesse, j'aimerais vous dire, reçois cette pensée en toi que bientôt vous serez jeune, sans difficulté, sans infirmité. Recevez cette pensée. Nourrissez-vous de cette pensée que bientôt vous serez jeune et remerciez déjà dès maintenant le Seigneur que un jour vous reviendrez jeune dans votre jeunesse. Comme ça, vous pourrez mieux supporter la vieillesse et la faiblesse dans la joie, avec la joie qui est dans ton cœur que un jour nous serons de nouveau jeunes. Ça, je peux vous le lire dans la Bible. Hein? Mais nos frères et sœurs qui n'ont jamais entendu d'une prédication tenue à un enterrement, et je vais leur montrer que cela est écrit dans la Bible, que Dieu va nous ramener dans notre jeunesse. Je le répète encore une fois, tous ceux qui m'ont déjà entendu parler lors d'un enterrement le savent, parfois je l'ai lu. C'est écrit dans Job, chapitre 33. Job, chapitre 33, l'un des plus beaux chapitres dans ces 42 chapitres du livre de Job. Ici, il est écrit les choses suivantes. Je lis à cause du contexte, on doit lire à partir du verset 23, parce que le contexte l'oblige. Job 33, à partir du verset 23. Quand il y aura pour lui un ange, un intercesseur, un seul d'entre les mille, pour rendre témoignage à l'homme de sa justice, et que celui-ci ait pitié de lui et dise à Dieu, libère-le qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une expiation. Alors, son corps regorge de vigueur juvénile, de sorte qu'il est ramené au jour de sa jeunesse. Amen. Gloire à notre Dieu. Job savait que son Rédempteur était vivant. Nous aussi, nous le savons. Il a reçu révélé que les rachetés seront rétablis dans leur jeunesse. Louer et remercier son notre Seigneur. Je ne sais pas que, j'espère pas que quelqu'un doute à cela, parce que de toute manière, cela arrivera. Mais justement, pas à, en ceux qui doutent, mais c'est pour cette raison que c'est important de croire. Croire, comme disent les Écritures. Il y en avait un entre mille, oui, le plus beau, parmi les mille, et il est. Lui, l'étoile du matin, il a trouvé une expiation. Lui, le plus beau entre mille, il a dit, aie pitié de lui. Libère-le, car je l'ai racheté. Alors son corps regorge de vigueur juvénile, de sorte qu'il est ramené au jour de sa jeunesse. Verset 25. Il prie, verset 26, Dieu. Et celui-ci l'accueille favorablement, lui fait voir sa face au milieu des cris de joie et rend à l'homme sa justice. Amen. Je n'ai pas lu de magazine, le miroir ou bien l'étoile, hein? Non, mais de la parole de Dieu. Remercié soit notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant. Restitue à l'homme sa justice, qui a accepté l'expiation qui a été accomplie pour lui. Ça, nous pouvons le croire, ça, nous pouvons l'expérimenter. Seulement, un seul homme, un tel homme, il est écrit de lui au verset 27. Il chante devant le peuple et confesse. J'avais péché, j'avais perverti la justice, mais je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a racheté mon âme afin qu'elle ne descende pas dans la fosse et que ma vie se réjouisse à la vue de la lumière. Sur la lumière, nous avons déjà parlé. Nous ne sommes pas dans les ténèbres, mais nous avons la lumière. Nous avons vu la lumière. La lumière apparue au temps du soir. Nous voulons encore aujourd'hui de tout notre cœur, remercier notre Dieu. Je ne sais pas si nous comprenons ce qui se passe et comment ça se passe et ce qui se passe parmi des milliers, des millions d'être appelés, d'avoir été appelés à sortir, d'avoir été choisis, élus pour, dans ces jours, devant la face de Dieu, être rassemblés pour écouter sa parole. Que personne regrette d'entreprendre de longs trajets pour venir écouter la parole de Dieu. L'image va changer. Ce seront alors ceux-là qui ressentiront du regret, qui habitaient proche de la réunion et qui ne venaient pas. Ceux-là, un jour, vont avoir beaucoup à regretter. Vous, qui êtes venus de loin, avec toutes ces circonstances difficiles de trajet pour écouter la parole, vous n'aurez rien à regretter. Vous vous réjouirez. Mais ceux qui auraient pu venir même à pied et qui ne sont pas venus, n'est-ce pas? Ils auront beaucoup à regretter. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant, puisse continuer à nous faire grâce et miséricorde et à nous humilier et nous conserver humbles devant sa face. Oui, dans sa grâce, dans sa parole, dans son amour, nous conserver et être avec nous tous. Amen. Nous voulons ensemble remercier, vraiment adorer. Même si quelques-uns veulent adorer à haute voix, faites-le. Nous prions tous avec vous. Alléluia. Alléluia. Oh, nous te remercions, Seigneur, cher Seigneur, fidèle Seigneur, de ce que tu parles ainsi avec nous. Pas en parabole, mais de face à face. Dans la totale clarté et vérité, tu t'adresses à ton peuple comme jamais auparavant. Alléluia. Gloire et honneur. Sois à ton merveilleux nom, toi grand, toi le très haut, oh mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es roi, sacrificateur et prophète. Alléluia. Médiateur, avocat, rédempteur. Tout, tu es devenu pour nous. Dieu fidèle, Dieu fidèle. Que tu puisses toucher tout le cœur. Toucher toutes les bouches, les lèvres et laisser jaillir la reconnaissance de nos cœurs la reconnaissance envers toi et pour ce que tu as fait pour nous. Alléluia. À toi soit la reconnaissance pour la révélation de ta parole. À toi soit la reconnaissance pour l'envoi de ton esclave serviteur et prophète. À toi soit la reconnaissance pour le message de la fin des temps. À toi soit la reconnaissance pour la lumière et la clarté. À toi soit la reconnaissance pour tout, Seigneur. Pour la rédemption par ton sang. Par la parole et par l'esprit. Alléluia. Alléluia. Oh mon Dieu, que tu puisses allumer une reconnaissance pleine de feu, une adoration en esprit. Alléluia. Gloire à toi, le Dieu Tout-Puissant. Louange à toi. Manifeste-toi de manière vivante, de manière perceptible. Alléluia. Alléluia. De manière perceptible, que tout ce qui respire loue l'Éternel, que tout le peuple dise Amen. Gloire à Dieu. Honneur au Seigneur, car il a accompli des merveilles. Alléluia. Alléluia. Ô Seigneur fidèle, que tous les pays soient remplis de ta gloire, ton témoignage véritable, qu'il soit porté jusqu'aux extrémités de la terre, et que tout le peuple puisse voir, que tous les peuples puissent voir la gloire de l'Éternel. Seigneur, nous te prions pour tous les frères et les sœurs qui sont dans des difficultés, qui sont allongés, couchés, malades, qui sont éprouvés. Ô Seigneur notre Dieu, sois proche d'eux dans leurs épreuves. Seigneur, que tu sois proche d'eux, que tu puisses les relever pour qu'ils puissent te servir, toi, le Dieu fidèle. Sauve ceux qui sont perdus. Délivre ceux qui sont liés. Guéris ceux qui sont malades. Confirme ta parole. Glorifie ton Saint-Nom. Et baptise d'esprit et de feu. Alléluia. À ton merveilleux nom. Et avec ton onction, viens sur ton peuple entier. Oh, nous te remercions. Et nous te louons. Commence ton triomphe, alléluia, parmi ton peuple, avec toute puissance, comme dans les jours de Gédéon, comme dans les jours de Josué, Seigneur, de ce que tu puisses parler et que tu puisses accorder une percée puissante à ton peuple par ta grâce, une puissance, une percée divine qui vient de toi, alléluia. Accorde pour que tu puisses accorder des temps de rafraîchissement, ces temps de rafraîchissement promis. Oh Seigneur notre Dieu, nous te remercions. Alléluia. 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 Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu.